Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça fait plaisir de vous voir ce matin. Ah, faut que j'allume. Voilà, magnifique. C'est un plaisir d'être avec vous. Je suis plein d'humilité. Je suis plein de... Enfin, conscient de ma faiblesse, tout particulièrement ce matin. Et conscient du fait que, en fait, c'est... Je ne suis pas là pour vous enseigner, mais nous sommes là ensemble pour être enseignés par le Seigneur maintenant. Et on va voir une chose ensemble. On va voir que devant l'Éternel, seules deux réactions sont possibles. L'endurcissement ou la capitulation. Alors je m'excuse, pour si vous n'êtes pas francophone de naissance, peut-être le mot capitulation, c'est un petit peu... C'est un petit peu difficile de comprendre ce que ça signifie. La capitulation, c'est le fait d'abandonner toute résistance. C'est le fait d'abandonner toute résistance. On a et que deux attitudes, deux réactions face à l'Éternel, hein, l'endurcissement ou la capitulation. On continue notre série dans le livre de Josué, qu'on avait commencé il y a quelques semaines. Cette série, j'avais donné ce nom pour la série « Victoire ». Dieu donne des victoires dans le livre de Josué. Et puis, vous voyez, ça se passe un petit peu dans cette région-là. On a Jérusalem ici, on a la ville de Jéricho, on a ici le fleuve, le Jourdain qui passe ici et qui vient se jeter ici. Et là, au moment, l'épisode qu'on va lire, le peuple de Dieu est quelque part par ici. Il s'apprête à franchir le Jourdain et à conquérir la première ville. La ville de Jéricho. Je vais tout de suite lire le texte, mais avant, je fais juste une petite rétrospective. Un peu d'histoire. Au moment, on va le voir dans le texte, Josué va ordonner à deux espions d'aller observer la ville de Jéricho. Et ce moment a dû être très particulier pour Josué. Josué, au moment où il a envoyé ses espions, il a dû vivre un peu comme une sensation de déjà-vu. Si vous lisez dans le livre des Nombres, les chapitres 13 et 14, vous verrez une histoire un petit peu similaire. Le peuple de Dieu est à l'entrée, à la porte du pays promis. Et puis Moïse, à ce moment-là, envoie 12 espions pour observer le pays. Après 40 jours d'observation, les espions reviennent, ils font leur rapport. Le pays est excellent, mais... Il semble impromenable parce que ce pays est plein de villes fortifiées et puis d'habitants qui semblent très forts, prêts pour le combat. Du coup, le peuple prend peur, il baisse les bras. Ils vont même aller jusqu'à souhaiter retourner en Égypte. Il n'y a que deux espions sur les 12 qui veulent attaquer, qui veulent compter sur Dieu, qui veulent faire confiance que Dieu leur donnera la victoire. Le premier de ces espions, c'est Caleb. Et le deuxième... n'est autre, justement, que Josué. Et à cause de cette attitude du peuple, Dieu va les faire errer dans le désert pendant 40 ans, jusqu'à ce qu'une génération passe. Et puis, 40 ans plus tard, rebolote. On a de nouveau un petit peu le même scénario. Le peuple est de nouveau à l'entrée du pays promis. Pendant 40 ans, Dieu n'a pas abandonné son peuple. Il les a nourris, il les a gardés, il les a protégés, il leur a donné des victoires pendant ces 40 années. Mais, quoi qu'il en soit, 40 ans plus tard, il n'y a plus que Caleb et Josué qui sont encore vivants. Toute la génération a passé. Et puis de nouveau, Josué, qui lui n'est plus un espion, mais qui est devenu le commandant d'Israël, envoie ces deux espions pour observer non pas tout le pays de Canaan, mais spécifiquement la ville de Jéricho. En vue de l'attaquer. On va lire maintenant le texte qui va être affiché. Ça se trouve dans Josué, au chapitre 2. Si vous avez votre Bible, vous pouvez chercher le livre de Josué. C'est assez facile à trouver, hein. On a Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué. Je vais lire tout le chapitre 2. Josué, fils de Noun, fit partir secrètement de Sittim deux espions en leur disant, aller explorer le pays, en particulier Jéricho. Ils partirent et arrivèrent à la maison d'une prostituée du nom de Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, « Des Israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison. En effet, c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les deux hommes et les cacha. Puis elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi. » Mais je ne savais pas d'où ils étaient, et au moment où ils allaient fermer la porte, à la tombée de la nuit, ils sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Dépêchez-vous de les rattraper. Elle avait fait monter les espions sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées. Ces hommes les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après leur départ. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit « Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous aspirez s'est emparée de nous et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous avons perdu courage. Et notre esprit est abattu devant vous. Car l'Éternel, votre Dieu, est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous en prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma famille la même bonté que moi pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous les leurs, et que vous nous sauverez de la mort. » Ces hommes lui répondirent, « Nous le jurons sur notre propre vie. Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, « Allez du côté de la montagne, sinon vos poursuivants risqueraient de vous rencontrer. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient rentrés. Après cela, vous poursuivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous nous acquitterons du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil rouge à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre. Et rassemble avec toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Si l'un d'eux passe la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. En revanche, si l'on porte la main contre l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, quel qu'il soit, son nom retombera sur notre tête. Si par ailleurs tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Elle répondit, « Qu'il soit comme vous l'avez dit. » Et elle prit congé d'eux, et ils s'en allèrent. Puis, elle attacha le cordon rouge à la fenêtre. Ils partirent et arrivèrent à la montagne, où ils restèrent 3 jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient soient rentrés. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent dans toute la région, mais sans les trouver. Les deux hommes redescendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent vers Josué, fils de Noun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils lui dirent, « C'est certain, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. C'est un texte qui n'est pas difficile à comprendre. On comprend bien l'action, on comprend bien ce qui se passe. Deux espions arrivent à Jéricho et ils vont créer en fait deux types de réactions qui vont être marquées par deux personnes différentes. D'abord, le roi de Jéricho et puis deuxièmement, une prostituée de la ville nommée Rahab. Le roi de Jéricho s'endurcit alors qu'à l'inverse, Rahab capitule. On va voir 4 choses maintenant sur ce texte. Premièrement, on va parler un tout petit peu de l'endurcissement du roi de Jéricho. Deuxièmement, on va parler de la capitulation de Rahab. Troisièmement, on va parler de l'attitude de Dieu lors de cet événement. Et puis, quatrièmement, on va parler un petit peu de nous. Qu'est-ce qu'on fait avec cet épisode, qu'est-ce qu'on fait en regardant l'attitude de Rahab du roi de Jéricho et l'attitude de Dieu dans cet événement. Premièrement donc, l'endurcissement du roi de Jéricho. Le roi de Jéricho s'endurcit. C'était une petite cité-État, c'était sans doute pas une cité très puissante, c'était pas un empire ou quelque chose comme ça, mais on voit très bien dans les paroles de Rahab, on connaît pas les paroles du roi de Jéricho, ni l'attitude du roi de Jéricho, mais dans les paroles de Rahab, on voit un petit peu l'attitude intérieure de ce roi de Jéricho. Vous avez remarqué ? La terreur que vous nous inspirez s'est emparée de nous et de tous les habitants, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Le roi de Jéricho était terrifié. Mais il n'était pas terrifié pour rien. Hein. Elle nous le dit. En effet, même elle, cette prostituée de Jéricho, le sait. Hein. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, il y a 40 ans donc, l'Éternel a asséché devant vous la mer des roseaux. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous avons perdu courage et notre esprit est abattu devant vous. Terreur et tremblement. Ce n'est pas juste des émotions, c'est des émotions qui sont basées sur des faits. La libération d'Égypte en Exode 12, le passage de la mer Rouge en Exode 13, les victoires contre les deux rois Sihon et Og, les rois de la région, hein, en Nombre 21. Bref, les gens de Jéricho, et plus précisément le roi de Jéricho, savent que les Israélites ont un Dieu, et pas n'importe quel Dieu. Ils ont un Dieu qui a la puissance de libérer, un Dieu qui a la puissance de faire des miracles, un Dieu qui a la puissance d'accorder des victoires. Et les gars sont pétrifiés à Jéricho. Pourtant, le roi s'endurcit. Il veut tuer les espions. Il va leur courir après pendant 3 jours. Et je pense qu'on peut imaginer que l'attitude du roi illustre bien en fait l'attitude générale probablement des gens de Jéricho qui sont en train de se dire « Bon, Israël n'est pas très loin, mais on a quand même encore quelques avantages stratégiques. » Premièrement, on a le Jourdain, qui est quand même un grand fleuve qui nous sépare d'eux. Ils ne pourront pas non plus passer le Jourdain aussi facilement que ça. Et puis deuxièmement, on a notre muraille, une grosse muraille solide qui entoure la ville de Jéricho et qui nous permet d'être quand même en sécurité. Mais quand même, au fond d'eux-mêmes, les habitants de Jéricho et le roi de Jéricho, ils tremblent et ils sont dans la terreur parce qu'ils savent bien que l'Éternel est avec Israël et que l'Éternel ne leur permettra pas de s'en sortir. Deuxième point, la capitulation de Rahab. En face de ce roi qui s'endurcit, on a un petit peu le personnage qui a l'opposé d'un point de vue social, une prostituée, Rahab. Une femme qui fait partie du peuple de Jéricho et du coup qui partage les craintes de son roi qui a peur en entendant ce peuple qui est là aux frontières de son pays. Mais au lieu de s'endurcir, elle, Rahab, elle capitule. Elle aide les espions. Elle ment à son roi. Et encore plus que ça, elle exprime une foi remarquable dans le Dieu d'Israël. Elle dit, hein, c'est l'Éternel, votre Dieu qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Elle reconnaît que Dieu est le seul vrai Dieu. Elle vit une vraie remise en question. Alors là, je dois faire 2 remarques sur l'attitude de Rahab. Première remarque, plusieurs personnes qui ont lu ce texte ont été choquées un petit peu qu'elle mente à son roi. Et ils se sont dit, mais est-ce que c'est possible de faire ça ? Et je crois que, en fait, il faut pas prendre le texte hors de son contexte. Bien sûr, elle ment à son roi, mais en fait, le texte ne focalise pas sur le fait qu'elle mente à son roi. Le texte, et je vais l'expliquer dans une seconde, il focalise qu'elle s'attache à l'Éternel, s'attache sur le Dieu d'Israël. Mais en fait, enfin, il faut pas mettre des présupposés sur cette femme Rahab qu'elle pouvait pas vivre. Rahab, c'était une païenne. Elle connaissait rien de Dieu. Elle voilà, elle débarque dans l'histoire de Dieu. Dieu va l'utiliser d'une manière remarquable. Et Dieu accomplit son plan. Ça ne justifie pas le fait de mentir à son roi. Mais n'empêche que ça arrive. Et que Dieu tire sa gloire de cet événement-là. Deuxième remarque qu'il faut faire. On pourrait avoir l'impression que la capitulation de Rahab, c'est soit un manque de courage, soit carrément une trahison. Et on pourrait dire que voilà, cette femme, elle trahit son pays en aidant ces deux espions. Elle manque de courage en essayant de se soustraire à la défaite inéluctable de son peuple. Mais je crois que Rahab, en fait, elle n'est pas en train de manquer de courage ni de trahir son peuple. Ce qu'elle vit, ça s'apparente plus à une remise en question, à une réalisation. Elle est en train de réaliser que l'Éternel est le seul vrai Dieu. En fait, elle entend les hauts faits qu'Israël a vécus par la puissance de Dieu. Elle réalise que, en fait, Dieu n'est pas juste la meilleure option. Il est le seul vrai Dieu. Il est la seule option. Pour illustrer un petit peu, je pense, ce que Rahab est en train de dire, on pourrait faussement croire que Rahab, elle est un petit peu comme en train de jouer en bourse. Et puis elle a tout misé sur le dieu ou les dieux probablement de Jéricho. Et tout d'un coup, il y a une plus grosse entreprise qui arrive sur le marché, en tout cas une entreprise qui promet des rendements incroyables. Et du coup, elle retire l'argent, enfin elle vend toutes ses actions sur les dieux de Jéricho, elle les investit sur l'Éternel. Mais ce n'est pas ça qu'elle fait en fait. Elle n'est pas en train de se dire, ok, je crois que l'Éternel est quand même une meilleure option que les dieux de Jéricho, du coup je vais investir plutôt sur l'Éternel. C'est pas ça qu'elle fait. En fait, elle est en train de réaliser qu'elle avait investi sur un mensonge. C'est comme si, en fait, elle est en train de réaliser que les dieux de Jéricho, tout l'investissement qu'elle avait accumulé sur ces entreprises-là, c'était du vent. En fait, elle est en train de réaliser que ces entreprises n'existent pas. C'est un mensonge. Et par contre, il y a une entreprise qui existe. C'est l'Éternel. Du coup, sa réaction, elle est logique. Elle n'est pas en train de poser le pour et le contre. Elle est en train de réaliser qu'il y a un seul vrai Dieu. Il est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Il est le seul vrai Dieu. Et du coup, elle va tout investir sur ce Dieu-là. Elle ne sait pas grand-chose de Dieu, de qui est Dieu. Mais elle a entendu ce dont il était capable et elle veut le suivre. Et la suite de l'histoire de Rahab nous montre à quel point elle a bien fait. Elle a eu l'attitude juste. Jéricho, il y avait deux grandes barrières, comme je l'ai dit, hein, le Jourdain, qui permettait au peuple de se sentir un peu en sécurité, et puis deuxièmement, la muraille. Si vous lisez un petit peu la suite du récit, vous verrez au chapitre 3 de Josué que Dieu permet le passage du Jourdain d'une manière absolument miraculeuse, un petit peu comme au moment du passage de la mer Rouge, Dieu va complètement arrêter le Jourdain pour que le peuple puisse passer au travers du Jourdain. Et puis si vous lisez encore un petit peu plus loin, au chapitre 6, vous verrez que la deuxième barrière, la muraille, Dieu va permettre qu'elle s'écroule d'une manière tout aussi miraculeuse. Et puis le peuple va pouvoir s'emparer de cette première ville du pays promis. Mais le texte nous rapporte au chapitre 6 justement que Rahab et toute sa famille sont épargnés. Je vous lis juste ce passage, hein. C'est dans Josué 6. Dieu dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites en sortir cette femme et tous les siens comme vous le lui avez juré. Les jeunes espions entrèrent chez Rahab et en firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous les siens. Et ils firent sortir tous les membres de sa famille et les installèrent en lieu sûr à l'extérieur du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, et à sa famille et à tous les siens. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. C'est assez intéressant. Rahab, elle avait sa maison qui était sur la muraille, ou probablement elle était adossée à la muraille. Au moment où la muraille s'effondre, la maison de Rahab, donc Dieu protège cette famille, il garde la promesse que les espions ont fait. Et Rahab va survivre à l'attaque de Jéricho. Un autre détail intéressant, Rahab, elle a dû marquer sa décision d'être sauvée en nouant ce cordon rouge, vous avez marqué, à sa fenêtre. Je crois qu'ici, Dieu nous laisse un petit peu un clin d'œil. C'est clair qu'on ne peut pas faire un lien direct avec d'autres événements, mais plutôt voir là Dieu qui nous fait un petit signe. 40 ans plus tôt, le sang d'un agneau a été versé pour qu'Israël soit sauvé soit libéré d'Égypte. 1500 ans plus tard, Dieu délivrera les hommes du péché par le sang de Jésus-Christ sur la croix. Et ici, comme un clin d'œil, Dieu délivre Rahab et sa famille de la mort par un signe, un cordon rouge. Comme j'ai dit, c'est comme un clin d'œil. Comme si Dieu voulait nous dire, à nous les lecteurs du 21e siècle, tu vois, c'est moi qui délivre. J'ai délivré Israël par le sang rouge d'un agneau. Je délivrerai l'humanité par le sang rouge de mon fils. Et maintenant, je délivre Rahab par ce cordon rouge. Alors bien entendu, comme j'ai dit, c'est un clin d'œil. Hein. Il n'y a pas de lien clair qui est établi dans le texte. Mais on peut voir que Dieu est en train de nous laisser un message. Il est en train de nous dire, c'est moi qui délivre Rahab. C'est moi qui ai la puissance de délivrer. Et ça nous amène à notre troisième point, l'action invisible de Dieu dans cet épisode. L'action invisible, ça ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. Au contraire, Dieu agit dans toute cette histoire. Dieu est là, un petit peu comme une trame de fond. Il est comme la toile sur laquelle va venir se peindre cette action. Il n'agit pas directement dans le texte. Il n'est pas dit que Dieu a fait ceci ou cela. Pourtant, Dieu permet que ces espions arrivent chez Rahab, une femme pleine de foi, une femme prête à les aider. Il y a beaucoup de circonstances incroyables que Dieu a permis. Hein. Une femme qui possède, par exemple, une maison sur la muraille pour qu'ils puissent s'échapper. Une femme aussi qui avait un gros stock de tiges de lin sur son toit à ce moment-là, pour les cacher. Et aussi une femme qui va encourager puissamment ses espions. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout à la fin de notre texte, les espions reviennent vers Josué, ils font leur rapport. Ils disent à Josué, c'est certain, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Les espions reprennent les mots mêmes que Rahab leur a dit. En fait, c'est un petit peu à l'inverse des 12 espions 40 ans plus tôt, 12 espions qui avaient fait baisser les bras au peuple. Ici, on a deux espions qui ont été fortement encouragés. Israël va attaquer. Dieu est à l'œuvre. Les espions ont vu que Dieu leur donnerait la victoire et ils vont en avoir la certitude. Dieu est à l'œuvre dans cet événement comme une trame de fond. Il faut maintenant qu'on en arrive à nous. C'est notre quatrième point, le dernier point. Qu'est-ce que cette prostituée nous enseigne à nous aujourd'hui? Qu'est-ce que ce roi nous enseigne à nous aujourd'hui? Et qu'est-ce que l'attitude de Dieu comme une trame de fond dans cet événement nous enseigne à nous aujourd'hui? On prend un peu de recul. Qu'est-ce que nous avons? On a une ville qui est un petit peu la porte d'entrée, comme le verrou de la promesse de Dieu. C'est un petit peu comme si Dieu a fait cette promesse à Abraham 400 ans plus tard. Maintenant, on est sur le point de vivre la réalisation de la promesse, mais il y a encore un dernier verrou, un dernier cadenas à faire sauter pour entrer dans le pays et pour que la promesse commence effectivement de se réaliser. On a un roi qui est fermement déterminé à faire échouer Israël. On a une prostituée pleine de foi. Et on a un Dieu qui ne change pas, qui fait avancer sa promesse et qui utilise cette femme, cette prostituée, pour faire sauter ce verrou et pour commencer cette nouvelle phase de la réalisation de sa promesse. J'aimerais vous proposer deux applications de ce texte. La première, elle nous vient de l'attitude de ce roi. Et la deuxième, elle nous vient de l'attitude de la prostituée. Première application. Le roi s'est endurci. Il tremble devant l'Éternel, mais il ne veut pas capituler. L'endurcissement, c'est quelque chose de tellement courant aujourd'hui face à l'Éternel. Si on regarde un petit peu autour de nous, tant de gens ont peur de la mort. Tant de gens pensent qu'il y a probablement un Dieu quelque part, mais ils ne veulent pas se soumettre à lui. Parce que la soumission, ça ressemble à un échec. Ça ressemble à une mauvaise option. Et tant de gens vivent en ayant un petit peu l'illusion de la liberté. Ils se disent sans Dieu ni maître. Alors que la vraie liberté, seul Dieu peut la donner. Ce n'est pas être courageux que de résister à Dieu, en fait, c'est être fou. Ça peut sembler très noble de prétendre n'avoir ni Dieu ni maître, d'être indépendant. Mais en fait, c'est de la folie. Vous savez ce qui attend tous ceux qui se prétendent sans Dieu ni maître? Je lis juste un petit extrait de l'Épître aux Philippiens. Si vous avez participé au groupe de maison, ça va vous rappeler quelque chose, on l'a lu il n'y a pas longtemps. C'est aussi pourquoi, Paul est en train de décrire aux Philippiens, il parle de Jésus. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ, le Seigneur, a la gloire de Dieu le Père. À un moment donné, toute la création pliera le genou. Toute la création, toute langue glorifiera Dieu le Père. Pour ceux qui font partie du peuple de Dieu, ce sera une immense joie. Et pour les autres, ce sera une immense détresse. Ils reconnaîtront à ce moment-là qu'ils ont voulu être courageux et forts, mais qu'ils ont été fous. Ils ont voulu résister au Créateur de l'univers. Pire que ça, ils ont voulu vivre dans l'opposition à ce Dieu. Alors que Dieu leur avait proposé un moyen de salut gratuit, alors que Dieu avait tout payé pour les sauver, alors que Dieu avait envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, que Jésus était mort à leur place, alors que Dieu leur a offert le plus beau des cadeaux, ils ont choisi de s'endurcir. C'est terrible, mais il faut être clair. Il n'y a pas de position intermédiaire, il n'y a que deux réactions face à l'Éternel, l'endurcissement ou la capitulation. Il n'y a pas des êtres humains neutres qui sont entre deux et puis qui peuvent se dire « bon, moi, ça me concerne pas tout ça ». Soit on s'endurcit devant l'Éternel, soit on capitule. Mais attention, regardons pas seulement les autres. C'est facile de regarder les autres et de dire voilà ce que les autres peut-être font de mal. Regardons aussi notre propre cœur. Est-ce que je suis endurci? Est-ce que j'ai ma fierté? Est-ce que j'ai l'impression moi aussi d'être courageux en résistant à Dieu? Si c'est le cas, alors vraiment, pliez le genou. Dès aujourd'hui, pliez le genou maintenant. Prosternez-vous devant ce grand Dieu et laissez-le devenir le maître de votre vie. Placez votre confiance en Jésus-Christ pour votre salut. Ce n'est pas de la lâcheté. C'est en fait comme le cri d'un condamné à mort qui réalise qu'il n'a pas d'autre issue. Il a la grâce qui lui est proposée. Il serait complètement fou de ne pas l'accepter. Pliez le genou, je vous en supplie. Ne soyez pas dur, mais capitulez devant l'Éternel. Et ça nous amène à la deuxième application qui provient de l'attitude de Rahab. Rahab, c'est une personne insignifiante. Elle n'est même pas israélite. Elle ne connaît rien de la loi de Dieu. Elle n'a pas vécu elle-même les grands miracles de Dieu. Elle en a entendu parler, mais elle n'a pas vécu elle-même ça. Et pourtant, elle capitule. Et à cause de ses capitulations, Dieu va l'utiliser à un point qu'on a du mal à imaginer. Elle va devenir un véritable pivot dans le plan de Dieu. Elle a tout donné à l'Éternel à ce moment-là. Et Dieu l'utilise d'une manière inimaginable. Elle fait sauter ce verrou. C'est elle qui va permettre d'avoir la victoire sur cette première ville du pays promis. Symboliquement, par elle, la promesse faite à Abraham des siècles plus tôt va enfin pouvoir commencer de s'accomplir. C'est pas rien. Voilà comment une simple femme insignifiante et pleine de foi va devenir un pivot de l'histoire. Comment ? En capitulant, en donnant tout à Dieu. C'est un bel exemple, ça nous inspire. D'ailleurs, si vous cherchez un petit peu la trace de Rahab dans le Nouveau Testament, vous verrez à quel point son témoignage est fort. Rahab, elle est mentionnée 3 fois dans le Nouveau Testament. Il y a 3 hommages, en quelque sorte, qui lui sont rendus. Premièrement, dans l'évangile de Matthieu. Vous savez où ? Dans la généalogie du Seigneur Jésus-Christ. Vous vous rendez compte ? En fait, Rahab a donné naissance à Boaz. Peut-être que ça vous dit quelque chose, hein ? Boaz qui a épousé Ruth. On peut lire cette histoire dans le livre de Ruth. Puis ensemble, ils vont avoir Obed. Obed qui va lui-même donner naissance à Isaïe. Isaïe qui va lui-même donner naissance à un certain David, roi d'Israël. Et là, on se dit, waouh, une païenne, une prostituée. Et pourtant, Rahab n'est autre que l'arrière-arrière-grand-mère du grand roi David. Et pas que ça, en fait. Elle est l'ancêtre du Seigneur Jésus. Deuxième hommage que le Nouveau Testament rend à cette femme, et qui n'est pas des moindres, Rahab, elle est listée dans la fameuse liste des héros de la foi en Hébreux 11. Je vous lis juste la citation de Rahab dans ce chapitre 11 d'Hébreux. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec les non-croyants, parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. Rahab, elle fait partie de ces héros de la foi qui n'ont pas regardé à la terre, qui n'ont pas regardé à ce qu'ils voyaient, mais qui ont regardé à l'Éternel, qui ont voulu placer leur confiance en l'Éternel. Et elle est mentionnée dans Hébreux 11. C'est énorme. Troisième hommage que le Nouveau Testament rend à Rahab, c'est Jacques, dans l'épître de Jacques, qui nous la mentionne. Et là, de nouveau, c'est énorme. Il la mentionne aux côtés d'Abraham. Il la mentionne aux côtés d'Abraham pour montrer que la foi sans les œuvres est morte. Et il nous dit, Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin ? Rahab, moi je trouve, elle nous inspire. Elle capitule devant l'Éternel. Et elle nous fait nous poser la question, est-ce que nous capitulons devant lui? Est-ce que nous sommes prêts à tout donner à Dieu? Alors, le problème avec cette question, c'est que c'est un peu facile de répondre oui. On a tous envie de répondre oui, je suis prêt à tout donner à Dieu, mais en fait, ça peut vite être du blabla. Est-ce qu'on le vit vraiment? Est-ce que on fait de Dieu notre priorité? Est-ce qu'on lui donne tout? Est-ce qu'on capitule réellement devant lui? J'aimerais maintenant vous partager un constat, quelques considérations concernant notre Église. Et je dois vous prévenir, je ne vais pas vous caresser dans le sens du poil maintenant, mais croyez-moi, je suis moi-même remis en question par ce constat que je vous partage maintenant. Je médite, je regarde notre Église, je médite sur la vie de notre Église et je me pose des questions. Je fais un constat et je vais essayer de l'illustrer ce constat par un petit graphique. Il y a quelque temps, notre église, on aurait pu dire qu'elle ressemblait un petit peu à ça. Il y avait un certain nombre de personnes et puis, voilà, il y a ce qu'on pouvait appeler le noyau dur que j'ai mis là en orange. Une partie des personnes qui sont, voilà, qui appartiennent vraiment à cette famille, qui veulent vivre pleinement la foi en Jésus-Christ dans cette famille. Puis une autre partie, les personnes qui sont peut-être plus en périphérie, qui sont peut-être plus passifs par rapport à la vie de cette église. C'est normal. Dans toutes les églises, on fait un petit peu ce constat. Hein. Mais avec le passage du temps, je remarque un phénomène. C'est quelque chose comme ça. On a de plus en plus de personnes qui fréquentent notre église, mais on a ce noyau qui, en fait, est assez stable en taille. Il y a des personnes qui, pour différentes raisons, des fois sortent du noyau et puis d'autres qui rentrent dans ce noyau. Mais on pourrait dire que la taille de ce noyau dans notre église reste toujours à peu près le même. Et ma réflexion, mon rêve en fait, c'est de changer cette tendance. Mon rêve, ma prière, c'est qu'on puisse vivre ça. Qu'on puisse vivre de plus en plus de personnes qui veulent tout donner à Dieu. Qui veulent vivre la vie d'église pleinement. Et en fait, je me permets même de rêver encore plus loin. Qu'on puisse vivre ça en fait. Qu'on puisse être tous ensemble une famille. Qu'on puisse être tous ensemble un noyau solide, uni et fort. Je ne veux pas parler ce matin de l'engagement dans des activités particulières. Bien sûr, il y a des besoins. On galère pour trouver des responsables d'école du dimanche, on galère pour trouver des responsables à l'accueil, on galère pour trouver des responsables de groupe de maison. On a besoin de personnes qui s'engagent. Mais j'aimerais, en fait, aller plus profondément que ça. La question, c'est pas juste de s'engager. La question, c'est est-ce que je suis prêt à capituler devant Dieu ? Alors bien sûr, vous allez me dire, on peut servir l'Éternel dans d'autres domaines que dans le domaine de l'Église locale. Mais quand même, depuis 2000 ans, Dieu a mis en place l'Église locale, entre autres, pour faire sa gloire. Alors, peut-être que vous avez l'occasion de servir l'Éternel dans un autre milieu, peut-être que vous avez capitulé et que vous avez l'occasion de le vivre ailleurs, mais quand même. L'Église locale, dans la pensée de Dieu, est centrale. L'Église locale doit être notre priorité. Si on aime Dieu, si on capitule devant lui, notre Église devient notre famille. On est les uns et les autres des frères et sœurs qui avons tous capitulé devant Dieu. Alors je sais, je ne vous caresse pas dans le sens du poil. Je sais, c'est un peu dur de dire ça ce matin, hein. Mais je ne le dis pas pour être dur, ni pour être négatif. Si je vous dis ça ce matin, si je vous partage ça, je vous ouvre un petit peu mon cœur, c'est pour qu'on puisse viser ça ensemble. C'est pour qu'on puisse, en fait, nous laisser inspirer par l'exemple de Rahab. Cette femme pleine de foi, cette femme qui capitule, cette femme qui ne connaît pas grand-chose de l'Éternel, mais qui, avec le peu qu'elle connaît, décide de tout donner. Cette femme qui aime l'Éternel plus que le roi de Jéricho. Cette femme qui est prête à prendre des risques forts, hein, parce qu'elle aime l'Éternel. Cette femme qui craint l'Éternel plus que son peuple. Cette femme qui capitule et qui donne tout. Comme j'ai dit, bien sûr, on peut servir l'Église dans un autre contexte que l'Église, on peut servir l'Éternel dans un autre contexte que l'Église locale, mais Dieu a voulu l'Église locale. Et si je ne vis pas profondément cet engagement auprès de mon Église locale, je crois que on loupe quand même une part essentielle de la vie chrétienne. Alors j'aimerais maintenant nous donner l'occasion de capituler. J'aimerais nous donner l'occasion de nous mettre devant Dieu, de nous mettre à sa disposition. De lui dire, si vous avez été marqué par l'exemple de Rahab, de lui dire maintenant, Seigneur, je ne sais pas tout de toi. Je sais que je ne t'aime pas autant que je devrais. Je sais que je suis insignifiant, mais je veux être disponible pour toi. Je veux te servir. Je veux servir ton Église. Montre-moi quand. Montre-moi comment je dois le faire. Je veux capituler devant toi. Je suis disponible pour toi. On va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait dans cette église, et en fait qui ne se fait pas trop dans nos milieux d'église, mais on va le faire quand même. Si vous le désirez, si vous désirez capituler maintenant devant l'Éternel, je vous propose de le montrer, de le vivre par un geste. On va se mettre à genoux, tous ceux qui le désirent. Bon, peut-être vos genoux ne vous permettent pas de faire ça. Et dans ce cas-là, vous restez assis sur votre chaise, vous pouvez vous mettre à genoux dans votre cœur, pas de problème. Mais voilà, je vais faire un temps de silence. Je vais fermer les yeux et on va tous fermer les yeux. Et si vous le désirez, si vous voulez vivre ça, je vous propose qu'on se mette à genoux. Vous pouvez vous retourner, vous mettre les coudes sur votre chaise, sur le plat de votre chaise. Et puis, on va vivre ça ensemble. Vous pourrez prendre un petit temps de prière. Et moi, j'arrêterai ce temps de silence où moi-même je prierai. Et je vais juste demander à tout le monde, vraiment tout le monde, de fermer les yeux pendant ce moment. En fait, le but, ce n'est pas de regarder qui s'est mis à genoux et qui s'est pas mis à genoux. C'est une histoire de moi-même par rapport à Dieu. Est-ce que je veux capituler devant Dieu? Ça marche? Alors, je vais me taire maintenant. Vous pourrez vous mettre à genoux. Le but, ce n'est pas de se comparer, mais le but, c'est de vivre cette relation avec Dieu. Par l'exemple de Rahab. Et comme Rahab, on reconnaît qu'on ne sait pas tout de toi. Comme Rahab, on reconnaît qu'on ne t'aime pas autant qu'on devrait. Comme Rahab, je reconnais que je suis insignifiant. Mais comme Rahab, je veux être disponible pour toi. Je veux te servir. Je veux servir ton Église. Seigneur, montre-moi quand, montre-moi comment je dois le faire. Mais Seigneur, je veux, comme Rahab, capituler devant toi. Je suis disponible pour toi. Amen.